N'est pas quelque chose d'aisé. Ceci dit, l'état des textes dans ce pays permet actuellement de poursuivre une tarification et des redevances sur les données publiques. Et donc, vous voyez, Denis Berthaud, je le remercie, a fait une description du genre de critères qui pourraient permettre de bâtir un dossier qui pourrait passer la barre à la fois de l'avis du COEPIA et du décret du Premier ministre pour que les tarifications nouvellement créées puissent être mises en place. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas un exercice facile et que tout ceci est à titre un petit peu d'exception, il faut bien le dire, à la règle de réutilisation des données publiques, qui est maintenant la règle de la gratuité. Ceci dit, on ne peut pas, laisser de côté la possibilité de tarification qui est actuellement ouverte par les textes. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Saint-Aubin, parce que nous sommes très, très en retard, et il faut quand même laisser un peu de place à Philippe Coste pour les aspects états-uniens de l'open data, parce que il a des choses importantes à nous dire. Alors, Monsieur Saint-Aubin, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais il faut que vous tailliez le bras et jusqu'à l'épaule droite, au moins, dans votre exposé. Merci de faire pour le mieux.
Alors, je vais vous rassurer, Monsieur le Président, puisqu'on a à la fois une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, c'est que Mademoiselle Rebecca Terry, qui devait intervenir dans l'atelier suivant, est malheureusement souffrante. Elle s'excuse, ce qui nous permettra de déborder un petit peu sur l'horaire comme nous l'avons convenu avec William Gilles, et ce qui me permettra de tenir le quart d'heure que j'avais envisagé. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un petit voyage prospectif aux confins de l'open data, de ce que recoupe cette notion de l'open data. On sait qu'elle n'épouse pas totalement la notion de données publiques. Elle est plus large, on voit émerger une question d'open data dans les données des entreprises, et au niveau des données personnelles, on s'intéresse de plus en partage des données personnelles. Donc je vous propose ce petit voyage prospectif dans cet univers très très mouvant. Je vais aussi vous présenter différents travaux d'étudiants, et je me réjouis de les voir très nombreux ici, les étudiants de notre master droit du numérique entreprise administration, qui est un master qui s'intéresse depuis longtemps à la question, qui avait un enseignant en droit des données publiques que j'ai envie de saluer aujourd'hui, qui était le professeur Mel, qui est décédé, un conseiller d'État qui est décédé cette année, et qui a publié les premiers articles dès 88, et Monsieur Berthaud est son successeur. Alors, pour mes étudiants et puis un certain nombre de collaborateurs, c'est un grand jour puisque nous publions aujourd'hui, à l'occasion de ce colloque, une plateforme de ressources, qui est en ligne donc depuis ce matin, qui s'appelle patrimoine-immatériel.fr. C'est un référentiel de métadonnées juridiques. La trame de mon intervention, c'est, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit les intervenants, c'est comment demain croiser des données qui peuvent être des données issues de l'open data ou des données entreprises ou des données personnelles. C'est l'enjeu de demain, de la création de la valeur. Et nous avons beaucoup réfléchi à ce référentiel de métadonnées juridiques qui permettra demain de garantir le croisement, l'interopérabilité juridique des données. Donc je vous présenterai notamment ces travaux. Donc ce site est accessible depuis ce matin. Alors l'open data, bon, on a largement discuté de données publiques. Je voulais juste dire que cet écosystème aujourd'hui est tout à fait mûr. Hein. On trouve de nombreux acteurs publics avec des missions bien définies par la voie réglementaire, des acteurs associatifs, une communauté, c'est une très bonne initiative, Data Connection, qui favorise la réutilisation des données publiques. Moi, je me suis plutôt intéressé à une cartographie des conditions juridiques de réutilisation des données aujourd'hui ouvertes par les administrations. Alors vous voyez qu'on voit deux grandes tendances. Au niveau des collectivités locales, on a massivement choisi la licence ODBL, et comme l'indiquait mon collègue de Paris, c'est une licence virale, c'est une licence qui favorise le partage et le reversement au pot commun des données dérivées enrichies, donc c'est une certaine philosophie. Et on a les administrations centrales, les ministères, à l'initiative des Talabs, qui ont reversé massivement 350 000 jeux de données sous la licence ouverte, qui est une licence beaucoup plus permissive, puisque nous avons souhaité dans le groupe de travail lever un certain nombre de contraintes, notamment les contraintes de l'article 12 de la loi CADA sur l'intégrité des données, un certain nombre de contraintes, et aujourd'hui on a la plupart des ministères qui ont choisi cette licence pour leurs données sur DataGouv, et notamment on dépasse un peu ce périmètre avec BNF, la BNF, DataGouv.fr, qui a fait le choix de la licence ouverte. Et vous voyez, le répertoire du ministère également, du ministère de la Justice, utilise cette licence pour ses propres jeux de données. Alors, dans le cadre du master, nous avions travaillé avec certains des étudiants ici présents sur la première licence d'ouverture des données publiques, hein, que nous avions publiée en juin 2010. Nous avons fait le choix de la conserver, puisque c'est une licence qui concerne davantage le contenu. C'est une licence qui nous a permis d'ouvrir un certain nombre de données issues du service de communication du ministère et qui a certaines variantes par rapport aux autres licences et qui est largement utilisée par exemple sur Data Publica. Vous avez plus de 20 000 données sur Data Publica sous cette licence, puisque quand les administrations, quand on publie leurs données par défaut, c'est plus simple peut-être de choisir cette licence qui est moins permissive que les licences ouvertes. En tout cas, il n'y a pas de levée des contraintes de l'article 12. On a également une démarche, nous, ministère de la Justice, de rétrocession, on envisage les conditions de redistribution des œuvres créées pour notre compte par des auteurs indépendants. Je prends l'exemple de ces dessins de Madame Guillot. Nous avons travaillé un contrat d'auteur avec cette dessinatrice pour la réforme des citoyens assesseurs. Et du coup, nous redistribuons ces créations sous Creative Commons. Et donc, ainsi, nous garantissons conditions de réutilisation à l'extérieur du ministère. Alors, je m'attarderai pas sur la synthèse. En tout cas, ce qui est réjouissant, c'est de voir. Tu peux zoomer un petit peu. Molette. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ouais. Ok. En tout cas, ce qui est réjouissant, c'est que les permissions, on retrouve des permissions ouvertes dans les trois grandes licences, et cela favorise certainement le croisement des données, quelle que soit la licence, et au niveau du mashup, c'est quelque chose de très intéressant. Au niveau des contraintes, il y a encore quelques différences, mais on est certain que les DSI, les agrégateurs, intégreront ces différences. Une petite nuance, par exemple, sur la licence information publique, elle institue une prime à l'innovation. Vous ne pouvez pas, par exemple, reprendre un formulaire SERFA ou une circulaire et la revendre en l'état. Voilà, notre position, ça a été, si vous le faites, il y a une viralité de la licence, il faut repartager à l'identique. Si vous apportez une plus-value, nécessairement, vous pouvez vous approuver cette plus-value et revendre la donnée. Alors, je reviens... Non, t'es revenu au début. Vas-y, je reviens au début. Avance pour revenir en l'été. Si je reviens à la définition de la donnée publique, il ne faut pas oublier que la donnée publique peut également être une donnée détenue par les entreprises, notamment les entreprises chargées d'une mission de service public. Alors comme le disait mon collègue de Paris, j'y suis très sensible, le prochain enjeu aujourd'hui, aux confins de l'open data, c'est d'envisager clairement les règles d'ouverture des données issues des délégations de service public. On a eu l'exemple de Keolis. On a tout un tas d'acteurs qui réfléchissent à la question. Je vais d'ailleurs intervenir pour ERDF en septembre sur les questions d'ouverture des données EDF. Leur concurrent Enel, italien, a ouvert récemment une plateforme Open Data. Vous trouverez notamment sur la plateforme que nous ouvrons aujourd'hui des propositions pour la déclinaison de l'ingénierie juridique pour décliner les différentes options CCAGPI, mis en œuvre notamment par l'APIE. Et nous avons ici une étudiante, mademoiselle Bayard, du Master Droit Public des Affaires, qui va notamment travailler sur ces différents cas, ces différentes stratégies envisageables pour la personne publique pour ouvrir totalement les données ou les ouvrir de manière pas totalement avec certaines restrictions. Ça me permet de revenir à cette déclaration faite par Daniel Kaplan à l'Open Data Week à Nantes la semaine dernière. Vous savez qu'on a eu toute une semaine consacrée à l'Open Data à Nantes. Et moi, je rejoins totalement cette hypothèse. Il ne faut pas simplifier considérablement la question de la donnée. Ce n'est pas une question binaire. On ne peut pas contourner totalement la question juridique puisqu'elle est nécessaire pour garantir cette interopérabilité des données. Les nouvelles valeurs demain seront dans les croisements des données publiques avec les données entreprises et notamment les données personnelles. Donc il faut absolument envisager ces questions, ces méta-données juridiques et la faisabilité du croisement des données. C'est le cas notamment, il y a un étudiant ici, M. Bon, qui a fait un excellent mémoire sur les métadonnées musicales, qui sera publié début juillet, puisqu'il a eu l'autorisation de publication du jury. Et on voit ce qui se passe dans la musique, c'est qu'on a une première couche de données entre guillemets en open data. C'est les données de référence sur les artistes, sur les albums, sur les formats, qu'on va retrouver dans deux grandes bases mondiales, l'IMR sous l'égide de l'OMPI, et la GRD sous l'égide de l'Union européenne. Et la nouvelle valeur, les labels, les majors, les distributeurs digitaux, ils vont enrichir en fait ces données, ce pot commun, avec leurs propres métadonnées, avec leurs propres plus-values. Et c'est cette plus-value-là qui permettra de bâtir les modèles économiques de demain sur la musique. Donc cette approche binaire, on voit vraiment que cette complexité juridique, elle s'illustre dans la question de la donnée personnelle. Dans la plateforme, nous proposons des déclinaisons de la licence information publique, et ça rejoint une préoccupation qu'avait Denis Berthaud, pour marquer les informations publiques qui contiennent des données personnelles. C'est important pour le réutilisateur de l'informer, de lui dire « attention, telle donnée publique contient des données personnelles, il peut y avoir certaines obligations, notamment vis-à-vis de la CNIL et vis-à-vis des personnes concernées ». On a distingué comme la loi les données publiques qui contiennent des données personnelles selon le cas où il y a une personne y a consenti. C'est le cas par exemple sur des concours. Au ministère, nous avons souvent eu des contentieux sur la réutilisation des résultats de concours où là, une personne a consenti à la publication via l'arrêté de concours. Ou bien sûr la question qui intéresse beaucoup la DILA et les journaux officiels, la question de la réutilisation des arrêtés nominatifs. Et des données publiques qui contiennent des données personnelles sur autorisation législative ou réglementaire. Nous avons distingué ces deux. Une petite approche qui nous a inspiré dans l'innovation que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est au ministère la problématique de l'alerte-enlèvement. Alors là, c'est vraiment une information publique qui contient des données personnelles très sensibles, puisque le mandat qui nous avait été donné par le politique, c'était de diffuser en temps réel à toute la population des données personnelles sur un enfant enlevé. Photos, nom, âge, sexe de l'enfant. On a mis en place une licence de flux, c'est-à-dire que j'autorise des partenaires médias à réutiliser cette donnée qui constitue un acte d'enquête, mais attention, à aucun moment je les autorise à la réutiliser au-delà d'un délai de 3 heures. Donc c'est une licence de flux, et lorsque nous révoquons le flux, nous révoquons l'autorisation de réutilisation, et ainsi, dynamiquement, automatiquement, l'alerte est retirée de l'ensemble des terminaux numériques, panneaux d'affichage urbain, internet, téléphonie et autres. Alors, sur la base je glisse progressivement sur les données personnelles, et il y a une question très importante sur les questions personnelles. On rejoint la logique du crowdsourcing, on rejoint la question des données publiques produites par les citoyens. Je me souviens, lorsque j'ai intégré les travaux de la FING, quand il parle de données publiques, il ne parle pas des données qui émanent des administrations, il parle des données qui émanent des citoyens, des données qui émanent des smartphones, de tous ces capteurs de données numériques, et la question de la redistribution. Alors je vous ai mis quelques exemples. Récemment, Médiamétrie, par exemple, a travaillé avec les grands opérateurs télécoms sur un procédé d'anonymisation des données de connexion pour mesurer l'audience de l'Internet mobile. Il y a de grands enjeux aujourd'hui pour mesurer l'audience de l'Internet mobile. Et on dispose aujourd'hui de ces données individuelles anonymisées. On pourrait se poser la question, quelqu'un de Médiamétrie dans la salle, on pourrait lui poser la question, pourquoi pas c'est ce personal open data, pourquoi pas le reverser également au pot commun. J'en viens à ma conclusion, et vous voyez que finalement je vais respecter le délai et ça va me permettre de vous dire deux mots sur le personal data, qui est le sujet qui m'intéresse au plus haut point et qui intéresse beaucoup un de mes étudiants ici présents, qui m'a remis son mémoire ce matin, excellent mémoire également, Vianney de la Fourtenelle, sur le partage des données personnelles. Pourquoi le partage des données personnelles est le nouvel enjeu ? D'abord au niveau de l'estimation du marché, on explose complètement les compteurs de l'open data. L'open data, on parlait de 27 milliards d'euros. Là, on est davantage autour du 150-160 milliards d'euros. Facebook est une base de données personnelles, donc la question est importante. Il y a une grande actualité sur le personal data, avec l'avènement en Angleterre du projet MeData, qui est un projet d'initiative gouvernementale et qui consiste à faire travailler des grandes entreprises pour qu'elles reversent dans une plateforme gérée par l'État et commune à l'ensemble des citoyens britanniques leurs données personnelles. Au niveau français, on a le projet Mes Infos, donc c'est une initiative privée, vous voyez, ça s'inverse cette fois-ci. C'est une initiative privée qui est menée par la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, et on a participé au groupe de travail avec mon étudiant. Au niveau juridique, vous savez que pour la première fois depuis 1995, le législateur européen envisage de faire évoluer la législation sur les données personnelles. C'est le projet de règlement européen. On a eu une présentation publique de ce projet le 25 janvier dernier. Ce projet contient notamment, dans son article 18, la consécration d'un droit à la portabilité des données personnelles pour les citoyens. C'est une grande évolution, ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit d'accès dont nous disposons, et l'expérience que nous avons menée avec mon étudiant nous montre que ce droit d'accès est parfois difficile à mettre en œuvre. On a fait des droits d'accès auprès de différents acteurs du numérique pour récupérer nos données. On n'a pas eu de résultat, en tout cas pas dans les délais légaux. L'évolution de ce règlement européen, c'est de garantir ce droit à la portabilité. Demain, je pourrais exiger que la SNCF, que EDF, que mon opérateur télécom me reverse quelque part mes données personnelles. D'autant plus que cette évolution juridique rejoint une grande évolution du marketing. Vous savez qu'aux États-Unis, à travers des études universitaires depuis le début des années 2000, on réfléchit à passer d'une logique de CRM, Consumer Relationship Management, à VRM, Vendor Relationship Management. On inverse totalement la relation entre l'entreprise et le consommateur. Cette évolution va se traduire dans les prochaines années par un écosystème des données personnelles. Je m'explique un petit peu. Vous allez avoir des personal data stores. Alors, ça, c'est une immense opportunité pour les actuels coffres-forts numériques. Je citerai par exemple Humbubble, qui est un français qui permet aux ménages de récupérer toutes leurs données, factures, fiscales, abonnements, etc., et qui les aide à payer leurs factures, des systèmes d'alerte, d'analyser des nouvelles offres qui pourraient les intéresser compte tenu du foyer. Ils ont déjà 60 000 ménages qui les ont autorisés à remettre leurs données sur cette plateforme. Donc, les personal data store, on va imaginer que demain, on va pouvoir reverser l'ensemble de nos données personnelles sur ces plateformes, ces coffres-forts numériques, ces entrepôts de données personnelles. On va avoir un écosystème autour des agrégateurs. Donc là, c'est tout un tas de personnes qui vont proposer des services au travers du croisement des données personnelles. En Angleterre, on a le quantified self, la mesure de la connaissance de soi-même qui se développe beaucoup, avec notamment un partage des données santé, des données d'alimentation qui permettent à des coachs de mieux connaître leurs clients. Et on aura bien sûr, pour les données qui feront l'objet d'une anonymisation et d'une pseudonymisation, les tiers de confiance que nous allons retrouver. Alors l'innovation, ce que nous publions aujourd'hui, c'est très important et je vous demande à tous votre attention. Merci. C'est une première avec l'ouverture de la licence Design Your Privacy. Vous savez que la nouvelle obligation européenne, c'est le Privacy by Design. C'est d'intégrer la problématique de la privacy dès la conception d'un système d'information. Nous publions notamment avec Rebecca Terry, qui est absente, et Guillaume Lullier, ce travail, et avec le travail de fond de Vianney Lafournelle, une des déclinaisons de cette première licence de partage de données personnelles. Nous avons décliné déjà données nominatives ou anonymisées ou pseudonymisées, et nous avons distingué une licence de stock ou de flux. La grande particularité de cette licence, c'est de donner un outil pour tout cet écosystème pour lui permettre de prospérer. L'idée, c'est qu'un particulier, demain, va disposer de ses données sur son personal data store et va fixer lui-même les conditions de réutilisation, les conditions d'accès aux différentes entreprises. Donc ces licences sont publiées aujourd'hui sur patrimoine-immatériel.fr et on lance un grand draft avec la FING pour mener une grande concertation avec les acteurs concernés pour mettre à disposition cet outil contractuel. La bonne nouvelle, c'est que pour arriver au Link Data, nous sommes arrivés à une conclusion, c'est que pour l'ensemble des données, qu'elles soient publiques, qu'elles soient des entreprises, qu'elles soient des données personnelles, on retrouve des grandes possibilités de partage. Vous voyez, on a synthétisé les permissions susceptibles d'être ouvertes par les particuliers sur leurs données ou par les administrations via l'ODBL ou la licence ouverte sur leurs données, et ainsi de favoriser le Link Data. Donc ce référentiel est ouvert. et on retrouve un certain nombre de contraintes. Voilà, on a ce référentiel. Demain, l'objectif, c'est de permettre ce croisement des données. On a largement réutilisé les grands référentiels internationaux de métadonnées juridiques, le MetaWrite de la bibliothèque du Congrès américain, les champs propriété intellectuelle du Dublin Core. Mais nous avons ajouté, c'est vraiment la plus-value de ce travail de recherche, nous avons ajouté des éléments propres à la data, propres à la donnée, puisque ces grands référentiels de métadonnées juridiques étaient davantage utilisés pour des documents. Voilà, merci de votre attention. Donc, je vous invite tous à consulter et puis ceux que ça intéresse de contribuer. C'est une contribution universitaire à cet écosystème. Et ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que n'oublions pas que l'open data n'est qu'un passage. Si nous sommes encore aujourd'hui, l'open data nous permettra de sortir de cette préhistoire numérique dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour revenir au link data, le web sémantique, le web 3.0. le lien avec l'Internet des objets, toutes les possibilités, mais c'est un autre sujet et je ne me permettrai pas d'intervenir sur le Web3 pour le moment. Voilà. Merci beaucoup.